One, two, three, four.
One, two, three, four.
Hey, oh, let's go.
Rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie. Bien le bonsoir. Émission de Rockologie cette semaine en direct, faisant suite à la voix de garage de Bertrand et sa musique de dératé. Ce soir, ça va être Caché, Bonbons qui font sourire et puis Naphtaline. Je vous emmène dans les années 80 du côté de la Californie, néo-psyché. Mais pas que, on va découvrir ce qui se passait chez les disquaires à l'époque. Alors il y aura bien entendu beaucoup de choses à base de drogue douce, hein, et d'autres un peu plus rapides et un peu plus, on va dire, stimulantes, comme ce fond sonore un petit peu foutraque signé des DBs. On en parlera dans cette émission, le fameux groupe power pop des années 80, co-animé par Chris Tamey et Peter Horsapple. On va commencer avec un groupe actif au tournant des années 70-80, les Long Riders, des jeunes gens qui ne sont plus très jeunes puisque, rappelons-le, les débuts sur disque du groupe de Sid Griffin datent de 83. Autant vous dire que maintenant ils sont plus proches de la soixantaine que de la trentaine, ni même de la vingtaine. Et ils avaient édité en 83 un premier album bien ancré dans la tradition Paisley Underground, qui était un petit peu le revival psyché californien. C'était un terme générique employé par les journalistes spécialisés pour remettre dans une case tout plein de groupes se réclamant de l'héritage psyché californien. Eux étaient beaucoup plus portés sur le côté folk rock des Birds, mais avec un côté punk. On va les écouter avec I Had a Dream, ça tombe bien. Moi, je vais en faire un dans l'instant qui suit. Les Long Riders en 84-83 dans Rockologie, c'est maintenant.
Tried so hard to explain the way things are, and a quick thing can change. But you never listen, just turn your head. Never even heard a single word that he said. While it's true now that I'm not a saint, I felt pain when you lived the hate. Said it before and I'll say it again. Leave me alone, man, and treat me like a friend. Well, I had a dream last night. Everybody's laughing and everything was alright. Still some hope in sight, that was last night. I had a dream last night. Nobody's crying, nobody's right. Still some hope in sight, that was last night. I sound like the rest. We're trying hard not to be too depressed. Once they take everything I've left, it's so easy. So if you're dreaming, I hope that you do. Wish for the best and hope that it comes true. Who knows what they'll leave when you're through. I had a dream last night. Everybody's laughing and everything was alright. Still some hope in sight, that was last night. I had a dream last night. Nobody's crying and nobody's fighting. Still some hope in sight, that was last night.
Rockologie, comme tous les mercredis, de 21h à 22h, l'histoire du rock que je vous compte comme ça au gré de mes humeurs et de mes envies, avec ce soir une émission consacrée à la scène néo-revival, néo-psyché américaine, la majorité, parce que j'avais aussi envie de célébrer la ressortie prévue pour le courant du mois des deux albums de Opal, le groupe de Steve Roback et puis Kendra Smith qui était la bassiste originelle du Dream Syndicate, le groupe de Steve Wynn, et Steven Roback était un des deux frères actifs au sein des Ren Parade qu'on vient d'écouter avec un extrait de leur deuxième album, puisque le deuxième album, enfin sur la discothèque dans le sens chronologique du terme, était plutôt un EP. Alors que le premier était un long player, à savoir plus de 10 morceaux par disque, alors que le EP en compte traditionnellement 4, et que ce deuxième album, Crashing Dream, était sorti chez Island Records, peut-être leur première sortie sur un label, on va dire, à 10 fusions internationales, puisqu'avant ils étaient sur un petit label, puisque la scène qu'on qualifiait, qu'on appelait Paisley Underground, à savoir le souterrain du velours, était un phénomène, un épiphénomène californien qui avait pris un petit peu d'ampleur dans les autres États des États-Unis. J'en veux pour exemple la formation qu'on va écouter dans l'instant qui suit, les Phillies, qui eux ne sont pas proprement parlés affiliés à la scène Paisley Underground, mais avec leur deuxième album qui s'appelle The Good Earth, on porte bien les stigmates, c'est-à-dire qu'ils étaient adeptes sur leur premier album d'un post-punk assez, on va dire, particulier, avec un batteur qui jouait sur deux caisses claires et qui frappait un rythme assez métronomique hérité du crotrock. Puis derrière il y avait les guitares de Stan de Glenn Mercer qui tissait des longues toiles d'araignée à base d'arpèges acoustiques et électriques. Et donc les Phillies sur leur deuxième album étaient officiers sur des auspices un peu plus, on va dire, bucoliques, beaucoup plus folk, et puis ce qui n'en empêchait pas de partir dans des longues envolées guitaristiques, hein, ce qui peut, selon moi, rappeler un petit peu les caractéristiques du Paisley Underground, hein, qui, rappelons-le, était l'émanation du psychédélisme en Californie dans les années 80. Phillies, The Good Earth avec On The Roof, et juste derrière, on écoutera un extrait du troisième album, ou premier album, si jamais, de Galaxy 500, qui, eux, versaient plus dans une pop très sombre, mais néanmoins assez psychédélique. Alors pourquoi avoir enchaîné ces deux groupes? Pour la simple et bonne raison que Stan Demeski, le percussionniste d'Ifelis, et puis Dean Warham formeront sur la décennie suivante le fameux groupe indie pop Luna. Voilà, c'est dit. Allez, c'est les Phillies maintenant dans Rockologie.
We'll be right back.
En voilà un bel exemple, on va dire, de rock indies psyché servi par un groupe actif entre 86 et 91, originaire de Boston. Mais les trois membres du groupe, à savoir le guitariste Dean Wareham, le batteur Damon Krukowski et puis la bassiste Naomi Young, se rencontrent sur les bancs de la fac à Harvard, à New York. Et puis ils se lient pour leur amour mutuel pour la musique des années 60, et puis notamment pour leur passion commune pour le Velvet Underground. Et puis ça s'entend assez bien sur ce titre assez lancinant, puisque rappelons-le, le Velvet était adepte d'une pop psyché très sombre, très urbaine, qui aura eu une immense influence sur la scène rock au sens général et large du terme. Galaxy 500 deviennent un petit peu des disciples de cette discipline sonore, et ils signeront chez le label indépendant anglais Rough Trade, et puis pour le marché anglais, et puis Recordisc pour le marché américain. Et puis j'ai trouvé l'ordre des albums. On Fire, en fait, c'est le deuxième album de la formation de New York, Boston, pardon. On va quitter un petit peu ces auspices nébuleux pour s'aventurer sur un registre un peu plus pop, beaucoup plus sucré et très, on va dire, accrocheur. Les D-B's, le groupe de Salem en Caroline du Nord, ou du Sud, pareil, un gros doute, a été le groupe de Chris Tamey et puis Peter Horsepel, des fans ultimes de la Big Star, le groupe de Memphis. Alors les deux états sont limitrophes, ce qui favorisait un petit peu une proximité. Et puis Horsepel avait, au travers de son fanatisme pour Big Star, entrepris un pèlerinage en 78, ce qui avait valu l'enregistrement de quelques démos pré-D-B's avec Alex Chilton, dont un titre qui s'appelle This is the Death of Rock and Roll, Death of Rock and Roll, qui a fait l'objet depuis compilation chez Omnivore Records, qui est un grand spécialiste pour le balayage de toute cette scène américaine de la power pop. Les D-B's, on va les écouter avec un extrait de leur premier album qui était sorti en 81, puisque on est au cœur des années 80, c'est un peu la thématique de l'émission. Et l'album s'appelait Stands for Decibel. Et pour la petite anecdote, ce groupe n'a jamais rencontré aucun succès dans leur pays d'origine. Ils ont eu un petit succès d'estime en Angleterre, ce qui avait valu au groupe de Chris Tamey d'être distribué par un label anglais, non pas américain. C'est tout. Stands for Decibel, répercussion. Ce sont vraiment les deux albums à avoir à tout prix, sortis successivement en 81 et 82, avant que le groupe soit récupéré par Rhino le temps d'un troisième album qui devait s'appeler Like This, et puis un quatrième. Puis après, les deux larrons se sont retrouvés pour des projets solo et mutuels, avant que... Puis je crois que le groupe a dû se reformer, oui, pour un dernier album qui est sorti pas plus tard qu'il y a 3 ans. Les D-B's avec I'm in love.
Turns out, it could turn out anyway. It could be this, it could be that, it could be none of the above. Yes, I. know it could work out anyway. It could be bad, it could be good, it could be none of the above. Yes, I do anyway.
Vous êtes toujours à bord de Rockologie, l'émission à remonter l'histoire du rock qui ce soir s'est perdue dans les années 80 du côté de la scène pop underground américaine avec à l'instant les Game Theory, le groupe de Sacramento animé par le défunt Scott Miller, appuyé par ses quatre amis musiciens. Game Theory, beaucoup de choses à dire sur ce groupe, je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission spéciale. Un groupe pareil qui était très ancré dans la tradition pop anglo-saxonne, mais avec un prisme très orienté sur Big Star. Le groupe a été produit à l'époque par Mitch Hitster, qui était un disciple de Alex Chilton, de Chris Bell. Mitch Hitster, qui était en plus d'être musicien, était producteur, musicien au sein des Let's Active. Très actif sur la scène de la power pop du sud-est des États-Unis, ce qui lui avait permis aussi d'étendre un peu ses domaines d'activité et de son territoire musical à la Californie, puisque rappelez-le, Sacramento est pas très loin de San Francisco. Scott Miller, un excellent, on va dire, singer-songwriter avec un fin mélodiste. Et puis pour en venir au cas de Game Theory, c'est 5-6 albums espacés sur une décennie avant que le groupe se mue en Loud Family, une autre formation toujours animée par Scott Miller, qui est mort en 2013. Il s'est suicidé. Ne demandez pas la raison, je l'ignore totalement. Mais pour en venir au cas de son groupe, je recommande chaudement l'acquisition séance tenante de cet album qui doit dater de 87-88 et qui s'appelle tout simplement Two Step from the Middle Age, qui peut être considéré comme un des sommets de la discographie du groupe Game Theory. On va quitter un petit peu la power pop pour arriver sur des auspices un peu plus, on va dire, roots, même si les Rev Ups, un groupe de Pittsburgh, étaient actifs sous un registre assez hybride, à la fois classique rock et power pop, avec ce titre issu de leur deuxième album qui s'appelait tout simplement Changes, Tinker Tommy. Et puis derrière, on écoutera un extrait du premier EP en date de Soul Asylum, qui était un des groupes actifs sur la scène de Minneapolis, des copains de label des Replacements. Alors dans l'ordre, les Rev Ups à l'instant, et puis derrière ça sera Soul Asylum. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8, c'est Rockologie jusqu'à 22h.
Seen.
Vous êtes toujours à bord de Rockologie, l'émission à remonter l'histoire du rock de Radio Campus Grenoble 90.8, avec un instant dans cette émission consacrée au rock pop underground américain des années 80. Un extrait du premier EP, enfin ce qui peut être considéré comme un premier disque de Soul Asylum, un groupe qui nous venait de Minneapolis, qui avait débuté sur des auspices bien plus punk. Parce qu'il faut comprendre que c'était des label mates, des copains de label, des replacements. Et les replacements étaient en début de carrière des adeptes d'un rock sans concession, assez proche des élucubrations sauvages du hardcore. Donc voilà, pour planter un peu le décor. Et sur ce titre de ce premier EP qui s'appelait Climb Deep and Over the Light, P9, c'est clairement une référence au country rock, enfin country, au folk roots rock qu'on avait écouté avec le groupe qui les précédait, les Red Ups. On va aller du côté de Los Angeles puis remettre les pieds dans le plat du Paisley Underground avec un extrait du premier EP des Dream Syndicate qui s'appelait tout simplement Down There. Dream Syndicate, rappelons-le, qui était le groupe de Kendra Smith et puis de Steve Wynn, qui avait sorti en 81 un des grands disques de la période, The Day of Wine and Rose. Alors musicalement, ça, on nageait en plein délire velvétien. C'était vraiment du rock, enfin du rock, du pop rock, excusez-moi. C'est plutôt quelque chose assez psyché, assez caverneux, avec des textes complètement barrés. Et puis on va les écouter avec autre chose qui a son importance. Les titres sont relativement longs sur cet album. Alors j'ai choisi évidemment un titre historique de leur premier EP pour vous donner envie de vous pencher sur le cas de ce groupe de Californie ou alors abréger vos souffrances, c'est selon. Dream Syndicate dans Oncologie. C'est Rockology sur Campus Grenoble 90.8, émission consacrée à la pop des années 80, la pop vue sous l'angle underground américain, avec l'émanation, la double émanation du Paisley Underground, avec le titre qui vient de se terminer de True West, qui était le groupe de Rustleman, Gavin Blair, Richard McGrath. Ces cinq joyeux lurons étaient originaires d'une petite localité pas très loin de Sacramento qui s'appelait Davis. Ils avaient fait le voyage du côté de Los Angeles et avaient sympathisé avec des membres du Ren Parade, ce qui leur avait valu justement d'être affilié à cette scène néo-psyché des années 80. Puis ne cachons pas non plus leur appartenance à cette scène avec leur pop, on va dire plutôt leur folk rock assez entêtant, issu de leur deuxième album qui s'appelait Drifter, Look Around, avec sa boucle répétitive. Ça synthétise un petit peu à merveille ce qu'on peut entendre dans ce registre sonore et musical, c'est-à-dire des boucles de guitare interminables, construites comme si c'était construit sous un modèle de raga indien, et puis toujours ces chants assez entêtants. C'est la particularité de ce deuxième album, avant que le groupe sorte un troisième et qu'il split d'une façon, on va dire, ponctuelle, avant de se reformer en 2006 jusqu'à maintenant, et il continue toujours de tourner. du ventre en plus, avec un peu moins de cheveux, puisqu'ils avaient tous la coupe au bol de rigueur, comme le portaient dans les années 60 les Birds, True West, un des groupes phares de cette scène, Paisley Underground. On va rester à Los Angeles, mais cette fois-ci avec un groupe animé par une chanteuse qui s'appelait Carla Olson et qui avait sympathisé avec Gene Clark. Et puis elle avait récupéré aussi le batteur du Dwight Twilight Band, son premier album, Phil Seymour. Les Textones, c'est le nom du groupe et on va l'écouter sur un extrait de leur deuxième album, Another Soul Searcher, sur un côté un peu plus, on va dire, rock, lorgnant un petit peu sur le country, mais léger. Rockologie se termine maintenant avec un titre issu du premier album des Permanent Green Light, qui était le groupe de Michael Garcia. Histoire de terminer en beauté cette émission consacrée à la set pop Paisley Underground American des années 80, avec l'évocation de toute cette scène. Je signale pour les néophytes l'existence de la page web de la radio www.campusgrenoble.org pour avoir accès au podcast des différentes émissions et programmes de la fréquence. Quant à moi, je vous salue bien bas, je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine de 21h à 22h. Ciao, bye, à la semaine prochaine. Ouf.
and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie.